Voilà. Donc, écriture collaborative, autopublication, prise en main par l'auteur de sa propre diffusion. Bon, tout ça nous pose la question de la, à la fin de la plus-value éditoriale. Est-ce que véritablement l'éditeur apporte une plus-value? Est-ce que l'éditeur sert à quelque chose? C'est un discours qu'on entend assez régulièrement en bibliothèque. En tout cas, c'est une interrogation. Et donc, il nous a semblé important, surtout après une présentation sur self-publishing, de faire intervenir Dominique Roux des presses universitaires de Caen pour rappeler ce à quoi sert un éditeur.
Donc, je vais intervenir en tant que responsable des presses universitaires de Caen, éditeur, mais surtout peut-être en tant que responsable d'un projet qui s'appelle Métop, pour méthodes et outils pour l'édition structurée, qui depuis 3 ans diffuse des outils permettant aux éditeurs publics en sciences humaines de passer à l'édition structurée, de passer pleinement à l'édition numérique avec des outils adaptés. C'est avec une méthodologie qui est basée sur l'existence de l'apport d'une plus-value éditoriale par des secrétaires de rédaction ou par des éditeurs. Alors, mon point de vue est peut-être un peu faussé par le fait que j'intervienne dans le domaine de l'édition universitaire et l'édition en sciences humaines. L'édition en sciences humaines qui a la particularité d'avoir une couche de travail éditorial assez importante. C'est-à-dire que nous sommes très gênés dans les discussions sur l'open access parce que nous avons beaucoup de mal à nous situer entre le texte qui est défini comme étant le dernier texte accepté par l'éditeur, que l'on autorise à déposer, et la version post-print. Et le travail dont je vais parler est un travail qui s'effectue, du moins dans le domaine des sciences humaines et sociales et dans le domaine de l'édition publique, dans cet espace qu'il y a entre le dernier texte accepté par l'éditeur et la version post-print. C'est ce que je définirais comme étant une forme de plus-value éditoriale. Alors, quand Sébastien m'a demandé d'intervenir, j'ai regardé le programme, bien sûr, j'ai vu qu'il était beaucoup question d'auto-édition, de publication, donc au risque de paraître au moins anti-moderne, j'ai choisi de commencer en rappelant, mais la personne qui a parlé avant moi l'a évoqué, ce qu'était édité. C'est-à-dire, édité, je vais vous demander de vous rappeler que c'est un processus complexe qui articule 4 sphères, une sphère intellectuelle, une sphère technique, une sphère économique et une sphère juridique. Et le succès d'une opération éditoriale vient de la parfaite intégration de ces 4 sphères. Celle dont je vais plus particulièrement parler aujourd'hui est la sphère technique, puisqu'on vit en ce moment un bouleversement dans les modes de fabrication et de diffusion des contenus. C'est-à-dire que l'idée que nous avons cherché à pousser, que nous n'avions pas totalement intégré l'apport du numérique dans la fabrication des contenus, et trop souvent, nous utilisons le numérique pour fabriquer un livre, et après nous nous préoccupons des autres formes. C'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est de bouleverser un peu l'ordre des choses, de se plonger un peu plus dans la sphère technique pour ne plus fabriquer un livre, mais fabriquer un contenu éditorialisé, équipé, appareillé pour permettre de multiples diffusions. Et ce travail va se construire à partir du travail de l'éditeur ou du secrétaire de rédaction. Si je présente différemment le processus éditorial, c'est un enchaînement de tâches, dont l'évaluation des manuscrits, la définition d'un cadre légal, ce qui est important, la préparation du contenu des ouvrages, et surtout la constitution d'un fonds et la valorisation d'un fonds. Donc ce à quoi je vais m'attacher, c'est à la définition de ce qu'est, de mon point de vue, un fonds à l'heure du numérique. C'est-à-dire un fonds, de mon point de vue, n'est plus constitué par les livres, mais nous verrons vers quoi nous faisons glisser la définition du fonds. Je vais parler de plus-value éditoriale. Je vais m'intéresser plus particulièrement à la plus-value éditoriale telle qu'elle est réalisée dans les services d'édition en sciences humaines et sociales. C'est d'abord un travail sur le texte, et je m'attacherai plus particulièrement ici à la notion d'architecture du texte. C'est ce que nous allons nous attacher à décrire, c'est bien cette architecture du texte qui va être interprétée de façon différente en fonction des modes de diffusion de distribution. Et ce processus d'apport qualitatif au texte passe par des lectures, par une préparation et une correction du texte. Et dans la préparation et correction du texte, l'action qui m'intéresse le plus, c'est la préparation de copie étendue qui va permettre de structurer le texte, pour arriver à une description du contenu à forme que l'on va mettre en relation avec des outils qui vont permettre de construire les formes de diffusion et qui vont permettre d'optimiser là où les diffusions. Si je prends le problème, si je sors de la description du contexte éditorial pour décrire le contexte numérique, l'éditeur doit, depuis la fin des années 80, prendre en compte l'état de convergence numérique. Numérique d'abord dans la fabrication de la forme imprimante, et depuis le début des années 2000, numérique qui est omniprésent à toutes les étapes de fabrication ou de consommation du produit éditorial. C'est-à-dire la chaîne est couverte complètement de la saisie par l'auteur jusqu'à la lecture maintenant par le consommateur des contenus éditorialisés. Le problème que nous avons cherché à résoudre techniquement est le problème de la zone grise située dans le horizontal, située dans le haut de la diapositive. C'est-à-dire, nous avons essayé de définir un format et des méthodes de travail qui permettent d'unifier la grande variété de sources numériques que nous recevons des auteurs, certaines relevant de logiciels qui ont disparu, de formats qui ne sont absolument pas standards, de formats propriétaires, pour construire quelque chose, pour donner forme à un contenu qui, maintenant, devra répondre à plusieurs fonctions. Alors, parmi ces fonctions, la fonction première, celle qui intéresse encore le plus les éditeurs pour le moment, est celle de produire une édition papier, mais de produire non seulement une édition papier, mais des éditions papier, c'est-à-dire de pouvoir produire un livre de poche à partir du même contenu éditorialisé, 2 ans après, 3 ans après, en évitant de refaire le travail éditorial. Dans le domaine de l'édition, ce qui coûte cher, c'est le temps passé pour éditorialiser, du moins dans le domaine de l'édition en sciences humaines. Une fois que la fonction production papier est remplie, on demande maintenant beaucoup plus aux fichiers numériques que nous fabriquons soit en amont du livre, soit au-delà du livre. On demande à ces fichiers d'être équipés de métadonnées qui assurent leur interopérabilité avec les systèmes de catalogage, qui assurent leur interopérabilité avec les systèmes commerciaux comme Amazon. On demande à ces fichiers de produire également, sur la base de l'identité du contenu, et en sciences humaines, en édition universitaire, il est très important que les contenus soient identiques pour des raisons au moins de citation et de fiabilité de la citation. On demande à ces contenus de pouvoir s'adapter à ce que Open Edition appelle des formes détachables, c'est bien ça ? Des formats détachables, donc comme le PDF, comme le HTML, comme surtout l'EPUB, le MOBI et toutes ces variations. On peut également demander à ces contenus de s'articuler avec les opérations de promotion, avec les catalogues, avec les produits de communication. Dans notre recherche d'un mode de travail d'un format qu'on va appeler format pivot, nous avons aussi recherché à assurer la pérennité de nos fonds, c'est-à-dire tout éditeur universitaire qui a travaillé des années 80 aux années 2000 a pris la fâcheuse habitude de perdre son fonds, du moins la forme numérique de son fonds, tous les 5 à 8 ans, parce que les logiciels changeaient, parce que les supports changeaient. Donc le format sur lequel nous avons cherché à travailler est également un format qui devait assurer, enfin, au-delà du fait de remplir toutes les fonctions que j'ai déjà définies, devait permettre d'assurer un archivage à long terme. Alors ce format, oui ? D'accord, je vais essayer. Je ne sais plus que je déborde des 30 minutes à ce moment-là, mais n'hésitez pas. Donc, ce que nous proposons, c'est de définir différemment le fonds éditorial. Je l'ai dit tout à l'heure, le fonds éditorial, maintenant, de notre point de vue, n'est plus constitué par les livres que l'on a dans ses stocks, mais par quelque chose qui ressemble à ceci. C'est-à-dire un fichier pérenne, c'est-à-dire un fichier texte qui est entièrement encodé en Unicode, qui contient à la fois, en noir, le contenu textuel que l'on a édité, et en couleur, tous les éléments qui permettent de décrire sa structure, qui permettent d'intégrer des éléments critiques, d'intégrer des éléments techniques, qui vont permettre à ce contenu de circuler de différentes façons, c'est-à-dire de produire un livre en utilisant certaines fonctionnalités du contenu, de produire un site web en utilisant d'autres fonctionnalités, de produire un EPUB, d'alimenter les plateformes. Ce contenu, c'est un fichier XML encodé en Unicode, et un fichier dont les balises, c'est-à-dire les éléments de couleur, sont choisis dans un vocabulaire normé. Alors le vocabulaire que nous avons choisi pour l'édition en sciences humaines est le vocabulaire de la Text Encoding Initiative, plus connu sous le nom de TEI. qui est un vocabulaire qui a été mis au point par des chercheurs en sciences humaines à la fin des années 80, c'est-à-dire indépendamment de toute implémentation informatique, pour permettre la description et l'échange de n'importe quelle source primaire dans le domaine des humanités. Alors, ce vocabulaire nous a intéressés parce qu'il venait de la recherche, parce qu'il permettait de décrire des contenus en sciences humaines, parti du principe qu'un livre était un contenu potentiel en sciences humaines, et parce que les personnes qui ont conçu ce vocabulaire se sont appuyées sur les grandes entreprises encyclopédiques des 18e et 19e siècles pour organiser le vocabulaire. Donc, fabricant de livres, on a été assez sensible à l'organisation générale. Le projet que je porte, donc le projet Métope, vise à fournir des outils aux éditeurs leur permettant de produire ce genre de choses tout en continuant à effectuer des tâches éditoriales et tout en capitalisant à l'intérieur de cette description la totalité de la plus-value éditoriale qu'ils apportent par leur travail. Le modèle que l'on défend est un modèle que nous n'avons pas inventé dans le cadre de Métope, c'est un modèle qui est connu sous le nom de Single Source Publishing, pour lequel il n'y a pas de traduction en français, dont je vous présente une illustration issue du Chicago Manual of Style, qui est un énorme manuel d'édition. Le principe en est le suivant. L'éditeur ne travaille plus pour une forme, mais travaille pour définir un contenu. Et une fois que ce contenu est établi, corrigé, amendé, appareillé, il passe par des automates ou des semi-automates pour produire différentes formes de diffusion. C'est-à-dire, le souci de l'éditeur est de constituer le fichier XML qui est placé légèrement sur la gauche pour vous. Et à partir de ce fichier XML que je vous ai montré et qui constitue son fond, il va produire les différentes formes en adaptant chacune des particularités structurelles aux particularités de la forme. Bon, très schématiquement, une note qui advient quelque part dans un texte devient un élément en bas de page dans une pagination, dans l'espace du livre, devient un pop-up menu, devient un lien hypertexte dans un espace numérique. Bon, pour prendre un exemple simple, un index devient une table d'index en fin d'ouvrage, devient un réseau de liens hypertexte dans un autre contexte. Ce qui est important dans un tel dispositif est de maîtriser le vocabulaire central. Donc, j'ai évoqué le XML-TEI, qui est le vocabulaire que nous avons choisi donc parce qu'il était, de notre point de vue d'éditeur en sciences humaines, conçu par des chercheurs. Et le pari que nous avons fait dans les années 90 finissantes, lorsque nous avons choisi ce vocabulaire, c'est que ce vocabulaire connaîtrait un certain succès dans le monde de la recherche et que nous aurions un jour à traiter de fichiers nativement encodés de cette façon. Notre problème étant, nous, en tant qu'éditeurs, de récupérer ces fichiers pour construire des dispositifs, pour construire des dispositifs éditoriaux. Alors c'est un pari qu'on a en partie réussi, puisque ce vocabulaire est aujourd'hui, bon, c'est notre responsabilité partagée par les éditeurs des presses d'université, partagée, mais ça a été deux démarches parallèles qui se sont rejointes par Open Edition, dont les formalismes sont exprimés dans le même vocabulaire, mais partagée par toutes les grandes entreprises de constitution de sources dans le domaine des humanités, c'est-à-dire les consortiums Cahiers, les consortiums MASA, dans lesquels des chercheurs établissent la numérisation de sources, établissent et les enrichissent de leur travail de recherche. Le produit que l'on cherche à obtenir est donc un texte XML balisé, c'est-à-dire des portions de texte enchâssées dans des balises suivant un modèle arborescent, avec une maîtrise du vocabulaire des balises, des choses qui apparaissent en couleur. Le vocabulaire sur lequel nous travaillons préférentiellement, enfin, qui nous sert à encoder les contenus, est la Text Encoding Initiative, mais nous assurons un certain niveau d'interopérabilité avec d'autres vocabulaires comme l'EAD, lorsqu'il s'agit de traitement de documents conservés dans des fonds, avec le Dublin Core, bien sûr, pour produire les métadonnées des produits numériques que nous mettons en diffusion, et principalement avec Onyx, puisque notre projet vise à développer un fonds numérique encodé en TEI, articulé avec sa description en Onyx, Onyx étant le vocabulaire utilisé pour la diffusion de distribution, pour permettre aux libraires de communiquer avec les diffuseurs-distributeurs. Onyx contient également une charge assez forte de données récupérables en termes de bibliographie et de description bibliographique des contenus. Bon, si je m'attache aux différentes fonctions des balises, le contenu structuré nous permet de produire des formes. L'information ajoutée en termes de catalogage, va nous permettre de construire des interfaces en termes de catalogage, d'exploration ou d'accès. Le format de stockage est un format de stockage entièrement Unicode, permet d'assurer la pérennité. Et nous avons, autre élément de pérennité, un format qui est totalement indépendant des outils logiciels de traitement ou de mise en forme des données. C'est-à-dire les espaces les logiciels peuvent évoluer. Notre seul problème est de trouver le moyen de faire couler ces éléments, ce fond éditorial, dans tel ou tel logiciel ou dans tel ou tel environnement. La méthode que l'on propose aux éditeurs pour constituer ces fonds codés en TUI n'est bien sûr pas de poser des balises. Ça viendra peut-être, les outils évoluent, les éditeurs évoluent aussi dans leur pratique, mais nous avons essayé de mettre en place une méthode qui permette de constituer les fonds balisés à partir de la pratique éditoriale normale, des outils normaux du secrétaire de rédaction, le traitement de texte, les outils de mise en page, et de constituer ce flux éditorial au fil du travail éditorial, c'est-à-dire en préparant en gros le livre papier. Et ce que l'on essaie de mettre en place, c'est un dispositif qui, lorsque le livre papier est achevé, de disposer en plus de ce fonds éditorial qui, lui, peut alimenter d'autres formes. Alors, il y a des enjeux économiques. C'est le système qui permet d'alimenter avec un coût nul les plateformes, de faire en sorte que l'alimentation des plateformes ne passe plus par un processus de rétroconversion qui a un coût, plus ou moins masqué dans les APC quelquefois, mais qui fait de l'éditeur un propriétaire, qui fait de l'éditeur le propriétaire d'un fonds, qui par le jeu d'un presse-bouton fournit à la plateforme le fichier dont il a besoin, ce qui dédramatise aussi le droit de propriété sur le fichier résultant. Le principe général est un principe qui, de l'établissement d'une première forme, celle du livre premier ou celle des épreuves, permet de déduire automatiquement une structure, qui est la structure du contenu décrit et appareillé au moyen du vocabulaire de la TEI, puis ensuite de mettre à disposition des éditeurs un ensemble d'outils qui permettent de passer de cette structure à différentes formes. Alors, les exemples que je prends sont des exemples d'édition de sources, puisque ça a été notre terrain de jeu à l'Université de Caen, et que nous avons choisi de traiter le problème par l'aspect le plus complexe. C'est-à-dire, nous avons cherché à développer un outil qui réponde à un certain niveau de complexité dans l'édition, qui ne répond pas à un flux de texte simple. Et notre terrain de jeu, donc, c'est l'édition de sources avec des textes à paralléliser, à segmenter, à aligner, de multiples systèmes de notes, des réseaux complexes d'index, des réseaux complexes de rapports texte-illustration. La méthode que l'on propose au secrétaire de rédaction est une méthode qui repose sur le fait que étiqueter un texte, le baliser, ça n'est jamais que refaire le travail. Enfin, c'est un travail qui est extrêmement parallèle au travail de l'éditeur qui, lui, distingue chaque partie d'un texte pour l'identifier et pour lui donner au final une forme qui va permettre au lecteur de se retrouver implicitement dans l'espace de la double page et dans la typographie choisie. Donc pour nous, éditer et baliser, c'est absolument la même chose. Et en faisant son travail éditorial, donc en faisant son travail de préparation de copie, de mise au point du texte, l'éditeur, qui utilise des outils informatiques, qui utilise des styles, permet d'inclure à l'intérieur du contenu qu'il a édité les informations nécessaires pour produire le fichier structuré qui servira ensuite de pivot. Donc, ce que l'on demande aux éditeurs, c'est de styler simplement, c'est-à-dire de faire leur travail éditorial en stylant, de produire un fichier stylé en sortie de travail. Ce fichier, le stylage étant 3% du travail éditorial. Le reste étant de la mise au point du texte, de l'ajout d'éléments de péritexte, de la création d'index, de la vérification d'architecture, du rapport texte-image, etc. Enfin, un travail éditorial classique. Sur la base de ce travail, on déduit un balisage. C'est-à-dire tous les outils de traitement de texte actuellement contiennent, même si vous ne le voyez pas, une forme XML balisée qu'il nous est facile, moyennant quelques tours de passe-passe informatique, de transformer en un fichier XML TEI. Et ce fichier XML TEI constitue donc le fond éditorial à partir duquel l'éditeur, en utilisant un logiciel qui s'appelle un éditeur XML, c'est-à-dire ce que l'on demande aussi à l'éditeur, c'est de prendre en compte le fait qu'il manipule un contenu, mais aussi une structure, ce qu'il faisait auparavant, mais là, il le fait de façon explicite, puisque cette structure se traduit en balises qui deviennent des éléments opératoires dans les différents systèmes de diffusion et distribution. L'éditeur va pouvoir produire, plus ou moins par un jeu de presse-bouton et avec un semi-automatisme dans le cas de mise en page, différentes formes, à partir d'une unicité du travail éditorial, et d'une unité du fichier fond. Donc il y a un deuxième aspect économique, le travail éditorial ne se fait qu'une fois. Et pour nous, éditeurs, il n'y a rien de plus démoralisant que de voir nos livres renumérisés derrière par des dispositifs mécaniques ou renumérisés rapidement parce que les moyennes ne permettent pas de repasser du temps dessus pour devenir des produits un petit peu moins bien édités ou pour lesquels on a traduit une forme en édition. C'est-à-dire l'idée que nous défendons, c'est que le dispositif technique permet de fournir directement des produits numériques qui tirent bénéfice du travail éditorial premier. Donc par ce jeu de transformation, on va pouvoir produire une nouvelle forme du papier, aussi complexe soit-elle, et deux nouvelles formes, des sites web, de la diffusion de l'EPUB pour diffuser sur tablette, pour diffuser sur des tablettes de petit format. On va pouvoir alimenter les plateformes avec un coût nul. Alors on travaille régulièrement avec Open Edition, à qui on fournit maintenant des livres qui se chargent quasiment sans ajout autre que l'apport propre d'Open Edition, le DOI, le travail sur la bibliographie. Nous avons travaillé avec Cairn récemment pour faire passer le coût moyen de retraitement d'une page de 2,80 euros à 0,75 euros en termes de rétroconversion. Nous espérons encore faire baisser les choses. Pour produire également des EPUB et pour, à partir de ces éléments-là, construire une stratégie de diffusion. Alors, parmi les choix que nous faisons à Caen, nous travaillons, dans le domaine de la diffusion de sources. Nous établissons la rentabilité, du moins, nous établissons les retours commerciaux sur la vente d'ouvrages papier, mais nous fournissons parallèlement à l'ouvrage papier tout un tas de sites compagnons ou d'extractions qui partent sur les plateformes, qui sont en libre accès et qui viennent compléter l'ouvrage papier, qui ont au moins des contenus identiques articulés de façon différente ou qui peuvent contenir des contenus complémentaires. Je pense aux illustrations couleurs que l'on ne peut pas imprimer et que l'on met en ligne sur les sources. Le même fichier source permet bien sûr d'alimenter, je l'ai déjà dit, les plateformes. Le langage que l'on a choisi est un langage qui vient de la recherche et nous sommes intéressés aussi, sur la base de l'identité de langage, à la possibilité de construire des produits éditoriaux en exploitant non plus des fichiers fabriqués par des secrétaires de rédaction qui avaient apporté une plus-value éditoriale, mais directement par des chercheurs. Alors, je vais prendre deux exemples rapidement, mon temps est peut-être épuisé. Le problème pour l'éditeur est, à l'intérieur d'un même vocabulaire, de passer du balisage sémantique fait par les chercheurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais de loin, les balises sont des balises de type sémantique qui précisent que là, on a un nom de personne, que la forme normalisée est celle-ci, que là, on a une note de type philologique, etc. Donc, de passer de cette expression de la description scientifique d'un contenu à son expression éditoriale. C'est-à-dire notre intervention consiste à traduire les catégories définies par les chercheurs en formes éditoriales, et sur la base d'un même langage et d'une même technique. Cette démarche nous a permis de construire des éditions de sources infiniment plus sophistiquées que celles faites par de stricts éditeurs. C'est-à-dire, on ne passe pas par le filtre du manuscrit, on exploite directement les catégories de recherche, on les enrichit avec tout le travail qu'a fait le chercheur pour normaliser les formes, en se connectant à des bases d'autorité, en se connectant à Crossref, à des bases de lieux, au VIAF, à des bases de personnes, et on récupère l'ensemble de ces flux structurés pour les simplifier, pour construire des éditions en ligne qui, elles, permettent de gérer donc une complexité plus grande, puisque les catégories que l'on manipule sont les catégories de recherche. Même chose pour ce qui demande, en termes de compétences, de manier les outils de mise en page de façon un peu plus sophistiquée, ce qui nous amène à faire des maquettes InDesign de ce type-là. Toujours pour construire des stratégies de publication complémentaires, dans notre cas. Le modèle technique permet de construire n'importe quelle stratégie gratuite, payante. Enfin, le modèle technique n'induit pas un système de rentabilité. Il est mis à disposition de l'éditeur qui construit son modèle de rentabilité. Autre exemple de recherche, ce modèle technique, enfin, c'est le fait de pouvoir récupérer des structures établies par le chercheur dans les structures éditoriales nous permet d'envisager d'autres modes de publication et d'autres modes d'écriture. Nous sommes intéressés, on aura vu l'exemple des sources, nous sommes intéressés aux archéologues qui travaillent au moyen de la TEI au système d'écriture dit loviciste, c'est-à-dire c'est un mode d'écriture utilisé en archéologie dans lequel on a une stricte dissociation du discours et du corpus qui est mis en œuvre et qui est mobilisé pour effectuer ce discours. C'est-à-dire que la publication se réduit à un ensemble de propriétés logiques et le développement de ces propriétés logiques permet d'accéder au corpus. Alors, derrière ce propos scientifique, il y a aussi un propos d'économie de publication qui permet de dégraisser sérieusement les livres d'archéologie pour proposer des articulations papier, numérique, tout autre, et qui permettent de prévoir dans le corpus divers états de publication qui peuvent aller du corpus construit en catalogue à la connexion directe sur les bases de données. Donc sur la base de l'interopérabilité que l'on peut établir entre la TEI que l'on a établie pour la recherche et la TEI du chercheur qui décrit ces phénomènes-là, ces relations-là, il est possible de construire des publications en ligne qui se limitent à la consultation d'un ensemble de propositions logiques, de mobiliser derrière chaque proposition tout le matériau critique, qu'il soit matériel ou documentaire, d'aller chercher dans un texte continu ces propositions logiques, c'est-à-dire de pouvoir également fabriquer un texte continu dont les articulations vont renfermer les propositions logiques et de circuler par leur biais sur les sites web, et d'articuler ces ensembles avec des bases de données. Ou alors de proposer au lecteur des interfaces de consultation qui reprennent le schéma loviciste et qui vont nous permettre, en suivant le schéma loviciste, de circuler dans l'information, puis de mobiliser les corpus. On touche là peut-être aux nouvelles formes d'écriture. Je parle des nouvelles formes d'écriture, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, que j'attends depuis 25 ans et que je ne vois pas émerger. Peut-être que là, on en a une expression. Je ne sais pas. Pour conclure, j'ai énuméré ici les avantages de mon point de vue du modèle proposé. J'en retiendrai deux ou trois. La pérennité. C'est-à-dire le fait que le fonds éditorial numérique constitué pour l'éditeur est un fonds qui est pérenne, enfin pérenne, dont la pérennité est attachée à l'existence de l'Unicode, c'est-à-dire qu'on travaille sur une conservation informatique à moyen terme, qui n'est pas de la pérennité absolue. Le fait qu'il est un facteur d'économie, enfin qu'il permet de construire une multidiffusion avec une sécurité d'identité de contenu, puisque le fichier pivot est toujours le même, quel que soit le mode de diffusion, et on ne passe pas par un mode de diffusion qui appauvrit le contenu pour en produire un autre qui utilise d'autres systèmes. Autre aspect économique, c'est-à-dire le travail éditorial, qui est donc le travail cher et que revendique donc l'éditeur, est un travail qui n'est effectué qu'une seule fois, qui n'est pas réeffectué plusieurs fois. D'un point de vue des métiers, j'estime que ces pratiques-là ne changent rien au fond des pratiques éditoriales. C'est-à-dire l'éditeur continue à éditer, il effectue son travail d'édition. La seule chose qui change et que l'on demande à l'éditeur, mais ça fait partie de ses devoirs, de mon point de vue, c'est de s'adapter au contexte technique dans lequel il évolue. C'est-à-dire actuellement, on voit trop encore en édition d'opérations de numérisation dont la finalité est le livre et qui sont contraintes par la production du livre et enfermées dans la production du livre et qui fait du livre le pivot pour la production des formes alors que le livre, comme toute forme de diffusion, est un appauvrissement du contenu tel qu'il a été éditorialisé. Merci.
Cet éclairage très dense et très riche sur les apports de l'édition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Enrico.
Je voulais vous poser une question sur cette norme de la TEI. D'un côté, un peu sur ses origines, parce qu'il me semble savoir qu'elle est née du monde de l'édition avant d'être du monde des chercheurs, et puis ensuite sur les problèmes qu'elle peut poser. J'entends justement des critiques sur le fait qu'elle n'est pas une norme stable et que chaque chercheur est libre de développer ses propres problèmes.
Non, c'est pas une norme, c'est un standard. Enfin, n'avoir jamais reçu l'onction d'une norme, c'est né dans le monde des pré-digital humanities, c'est-à-dire des personnes qui, dans les années 80, travaillaient sur la linguistique computationnelle et travaillaient dans le domaine des sources. C'est un projet qui n'est pas informatique au départ, qui est un projet qui est purement intellectuel. Il n'a pas connu tout de suite une implémentation informatique. Les chercheurs, on est dans un monde XML dans lequel on peut toujours créer des balises supplémentaires. Mais créer des balises supplémentaires, c'est s'exclure du collectif. Le collectif est parfaitement géré, c'est-à-dire il y a un consortium international de la TEI qui gère de façon tout à fait raisonnable et mesurée les évolutions de la TEI. Et actuellement, on est passé de la P3 de la TEI à la P5. Il y a une stabilité rassurante des balises que l'on manipule. Après, c'est un problème de foi d'utilisation, c'est-à-dire nous ne prenons pas les balises sur les marges de développement. Nous les prenons au cœur de la TEI et nous suivons les évolutions. L'avantage d'un tel système est que le système est pensé dans son ensemble. La TEI est un ensemble de 600-650 balises qui sont toutes thématisées, avec des modules nouveaux qui apparaissent. Il y a 4 ans, il n'y avait pas de module pour l'édition génétique. Le module édition génétique a été conçu à l'intérieur du consortium par des chercheurs et a été conçu de façon à être intégré à l'ensemble de la TEI sans bousculer l'arborescence générale. Et lorsqu'on crée un sous-ensemble, on prend un sous-ensemble de balises, le sous-ensemble de balises nécessaire, que l'on clôt pour tel ou tel usage. On peut le réviser à tout moment, mais en allant chercher, parmi les balises validées, celles qui vont venir compléter ou répondre aux propos que l'on retient. C'est-à-dire, il n'y a pas de normes, mais il y a un usage raisonnable à faire d'un standard qui évolue de façon extrêmement contrôlée. Il n'est pas né dans le monde de l'édition. Il est né dans le monde de la recherche sur les textes. J'ai répondu. Justement, le travail que l'on fait consiste à définir un standard. Et ce standard, on l'a défini en commun avec Open Edition. C'est-à-dire qu'on a aligné nos pratiques pour définir un noyau commun de balises pour représenter les revues et les livres. Un périmètre un peu plus large qui permet de définir ce qui permet d'éditer au-delà du flux de communication que constitue la plateforme. Et après, nous travaillons avec les chercheurs qui, eux, travaillent avec beaucoup plus de balises, mais nous verrons très soigneusement les interfaces entre les balises qu'ils utilisent, qui décrivent des réalités de recherche, et les formes éditoriales que l'on a définies, qui sont beaucoup plus fermées, avec une évolution raisonnable sur le même modèle que le consortium. Et la diffusion de l'outil est une façon également de diffuser le standard.
Une question de novice, tout à fait, Jacques Lafeuille, UPMC. Les outils informatiques, les logiciels que vous utilisez pour mettre tout ça en forme, est-ce qu'il y a beaucoup d'open source ou est-ce que c'est des logiciels propriétaires ?
Ils sont à diffusion libre. Il y a une partie amont et une partie aval. La partie amont, c'est celle qui permet de passer du traitement de texte à la TEI. Là, c'est open source, c'est totalement libre. La partie aval est la partie qui permet de transformer ce fichier pivot en des formes éditoriales. Tout ce qui permet de transformer un flux en un flux est libre et open source. Tout ce qui permet de mettre en page est retenu pour sa diffusion dans le domaine privé. C'est-à-dire, il y a un acteur privé qui en a l'usage pendant 4 ou 5 ans, ce qui nous a permis de financer un certain nombre de travaux. Par contre, le fait que cet acteur privé en ait l'usage exclusif pour l'exploitation privée ne bloque pas sa diffusion libre dans le domaine public. Donc les outils sont diffusés de façon libre dans le domaine de l'édition publique et utilisables de façon libre dans le domaine de l'édition publique.
J'en profite. Il y a combien d'éditeurs qui sont concernés par Metop ? Justement, j'entends qu'il y a un acteur privé, mais il y a combien d'éditeurs à peu près ?
D'éditeurs publics ?
Ouais.
Alors, on a formé en France, parce qu'on forme également des groupes d'éditeurs à l'étranger, en recherchant un maximum d'interopérabilité entre leurs fonds et les nôtres. En France, on a formé plus de 40 structures de type presse d'université ou laboratoire. Nous attaquons actuellement les revues du CNRS et cette sphère-là. Si je regarde, alors c'est une chaîne qu'on a conçue au départ pour les livres, puisque notre préoccupation d'éditeur était avant tout les livres, et qui très vite a été utilisée également pour les revues. On faisait le compte, je crois qu'il y a une trentaine de revues sur Open Edition, soit un peu moins de 10% des revues qui passent par la chaîne, et une petite quarantaine chez Cairn qui passent par la chaîne maintenant. Pour les livres, on devrait voir arriver, je crois que ça augmente, vous êtes bien placé pour en parler, on devrait voir arriver un quota un peu plus important de livres qui arrivent nativement chez vous en XML sans processus de rétroconversion. Je crois qu'entre l'an dernier et cette année, ça avait augmenté sensiblement, on devrait voir l'effet petit à petit. Oui, non. C'est mal. Alors, le travail est antérieur au... Enfin, s'il y a un travail éditorial, et c'est la condition, c'est-à-dire il y a des endroits dans lesquels nous n'arrivons pas à installer le système parce qu'il y a encore trop d'endroits qui font de la cosmétique éditoriale. C'est-à-dire qu'ils prennent un texte, qu'ils mettent un peu de forme dessus pour faire un livre, en général. Si le travail éditorial est fait, c'est-à-dire si le texte est décrit, structuré, s'il est hiérarchisé avec des niveaux de titres, etc., si les principaux éléments du texte sont nommés, le travail qui permet de passer à la forme TEI est un export, simplement. C'est-à-dire c'est une ouverture du fichier avec OpenOffice et un export en passant par une feuille de transformation nous avons pu écrire, qui écrit entièrement le fichier en TEI. C'est-à-dire, une fois que le travail éditorial est fait, et il faut qu'il soit fait, c'est 7 secondes, 8 secondes, pour obtenir un flux XML TEI correspondant au standard et susceptible d'être transformé dans les autres formes. C'est-à-dire, c'est un passage purement mécanique, mais c'est un passage purement mécanique qui repose sur la réalité d'une plus-value éditoriale, c'est-à-dire d'une description raisonnée du texte, chose que fait tout éditeur qui prépare sa copie dans le monde du plomb pour l'envoyer chez le compositeur. Sont également traduits en structure tous les index, tout ce que l'éditeur aura pu faire comme travail supplémentaire dans son environnement de traitement de texte pour équiper son fond, pour en faire des produits de diffusion. C'est-à-dire le travail de passage est mécanique. Ce qui n'est pas mécanique, c'est le travail éditorial. C'est-à-dire si on part d'un tas de boue, on va obtenir une arborescence qui ne sera pas fonctionnelle. Bon, après, il faut structurer un texte, c'est peu de choses. C'est-à-dire, c'est nommer tout ce qui n'est pas texte normal. C'est-à-dire, c'est nommer la hiérarchie des titres, c'est préciser où sont les citations, préciser quelle est la langue des citations, l'équiper en métadonnées de type mots-clés, en métadonnées de type résumé. Construire un réseau, il y a une méthodologie d'insertion des images, c'est-à-dire on ne met plus les images dans le texte, on lit le texte à des expressions des images, puisqu'on va changer d'expression, donc c'est une méthodologie de constitution des fichiers qui vont servir à la fabrication et à la diffusion, mais avec un passage neutre.
Donc si jamais je comprends bien, la chaîne TEI permettrait de faire un type de produit comme celui qui a été présenté ce matin avec Living Books.
Parmi les clients de notre prestataire, il y a Erol. Il n'est pas impossible que Erol ait utilisé certains de nos outils pour passer d'une forme numérique à... Enfin, je souhaiterais que ce soit ça. Sinon, je crains de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on est parti de la forme papier pour... Enfin bon, je ne veux pas savoir. Mais oui, c'est-à-dire le propos, c'est de partir d'un fond qui est un contenu structuré à forme et de l'équiper suffisamment pour répondre à la fois à toutes les contraintes des formes en gérant tous les appauvrissements des formes. Chaque forme est un appauvrissement. Et c'est ce fond qui contient le potentiel de transformation dans chacune des particularités des formes.
Très bien. Et juste pour terminer, vous pensez que c'est une... Parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement pointu en termes métier. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va rester dans le secteur des presses universitaires ou des presses académiques, qu'il est possible que ça se déploie dans...
Non, on a des... Pour nous, le signal le plus fort, c'est que des entreprises de composition, des prestataires de services en composition s'intéressent à cette méthode-là. D'accord. C'est-à-dire, nous, il nous sert à gérer la complexité au prix d'un travail éditorial considérable, c'est-à-dire le produit que l'on a en sortie dépend du travail que l'on a fait en entrée, mais la méthode vaut, c'est-à-dire la méthode du single source publishing est la seule raisonnable pour multidiffuser. Après, on entre dans des surcoûts que le lecteur finit par payer. On peut toujours régler le problème en faisant de la rétroconversion, mais la rétroconversion n'est jamais qu'un travail éditorial bon marché. À tous les sens du terme, quoi, et qui s'appuie sur une lecture automatique ou sur un travail fait rapidement, ce qui est d'autant plus dommage que ce travail ait déjà été fait. Donc c'est le modèle, je pense pouvoir sans prendre trop de risques affirmer que c'est le modèle raisonnable pour toute production qui veut être multidiffusée, après avec des degrés de complexité différents.
Très bien, merci Dominique. En tout cas, je crois que la leçon, c'est qu'il faudra attendre un peu avant de vous désintermédier. Ça sera plus prudent. Je vous propose maintenant de passer à la présentation du projet PNB avec Claire Pellou.